Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Hop, 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 hop !
Bonne année !
Pour cette première émission de l'année, nous vous avons réservé un scoop. Vous allez en effet, lors de l'écoute de cette première lecture, découvrir le véritable patronyme de notre sympathique camarade John Bulit. Dans sa nouvelle, qu'il a intitulée « Le mythe », vous allez également comprendre pourquoi il a emprunté cette identité.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Ce sont les voix de Patricia, de Laurent, de John
et d'Evelyne
qui vous accompagneront dans cette nouvelle.
Mon père nous racontait souvent, quand nous étions enfants, des histoires extraordinaires. Entre autres, celle de ce lointain ancêtre, capitaine de vaisseau qui aurait commandé une frégate de la marine royale de Louis XV et aurait traversé l'océan, il y a bien des années, en direction des Amériques. Nous avions donc un ancêtre américain. D'après mon paternel, il aurait fait fortune là-bas, dans le commerce, en vendant de l'or et des fourrures, puis américanisé son nom, le transformant de Jean Boulet à John Bulit. Ah, belle histoire! Quoi qu'à la réflexion, je pense que ce que nous a surtout vendu mon père, c'était du rêve. Mais nous, les enfants, on adorait ça.
Oui, c'est vrai, frangin, on adorait ça. Mais arrivé à l'âge adulte, méfiant envers mes souvenirs idylliques d'enfance, je me décidais à creuser un peu plus ce joli conte pour enfants. Si mon père avait tenu à m'affubler de ce même prénom de Jean et que je m'en étais senti quelque peu flatté, la surprise fut à la hauteur de mes illusions. En effet, lorsque les doigts crochus de l'intelligence artificielle de la société MyHeritage, spécialisée en recherche généalogique, me révélèrent les dessous de mes ancêtres, je tombai des nues. Oui, cette idée romanesque d'avoir eu un arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père capitaine de frégate s'effrita rapidement à l'aune de la dure réalité de la vie.
Vous déposerez juste une petite goutte de sang sur le buvard et c'est tout. Pour 137 dollars US, une partie de votre vie pourrait en être transformée. Vous verrez. Ce sera passionnant de découvrir tout cela.
Un mois avait passé et j'avais même oublié de quoi il s'agissait lorsqu'un matin brumeux de novembre, je trouvais dans ma boîte aux lettres une jolie enveloppe timbrée avec un aigle américain dans le coin supérieur droit et le sigle MyHeritage au dos de la lettre en question. Je la tournais et la retournait dans tous les sens, la reniflant tel un chien de chasse. Est-ce que ça sentait bon, cette affaire ? Était-ce vraiment une bonne idée d'avoir entrepris ces démarches ? Je ne me décidais pas à l'ouvrir immédiatement et la placer sur ma table de nuit. Ma femme, partie en vacances pour une semaine avec ses amis de sport, ne pourrait pas me poser de questions, en tout cas à ce sujet. D'ailleurs, si Véronique avait été là, elle m'aurait déjà arraché des mains, elle aurait dévoré compulsivement de bas en haut et de haut en bas, n'écoutant pas mes protestations pour les récupérer. Ah, curiosité maladive que j'avais dû accepter pour vivre avec elle. Heureusement, j'étais seul à ce moment. J'avais décidé d'attendre. D'attendre quoi au juste, je ne le savais pas moi-même, mais c'était pas le bon moment, le bon endroit, le bon quoi.
Thank you.
Le soir venu, allongé sur mon lit, le kaléidoscope de mes espoirs commença à tourner dans mon esprit à très grande vitesse. L'Amérique, ah, les terres du Nouveau Monde, les Indiens, la fortune. À quoi s'attendre dans cette lettre le gros lot, le bingo gagnant? Oh, l'avenir transformé du jour au lendemain. Jeu de la chance, loterie nationale, tutti quanti, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'y croyais. La roue de la fortune allait enfin tourner pour moi grâce à cette simple lettre, j'en étais sûr. Ah, fini le scribouillard de l'usine du moulin employé à tenir la comptabilité des manches de pioche, des râteaux ou des pelles du moulin.
Une pelle du moulin ? Et les travaux vont bien.
Disait le slogan, mais moi, je n'allais pas bien. Il me fallait rêver, il me fallait croire en ce John Bullitt bien meilleur que moi, qui m'apporterait tout ce que je n'étais pas, tout ce que je n'avais pas moi. L'anonyme Jean Boulet, le petit comptable de service. Avec lui, j'irais vers le meilleur. Et meilleur que n'était ma vie insipide, dans ce boulot alimentaire horripilant. Meilleur aussi que ma vie sentimentale si terne auprès de Véronique qui n'avait pas su me donner d'enfant. Une descendance qui aurait pu éclairer ma vie. Le mardi de cette semaine, j'ouvris enfin la lettre. Enfin, j'ouvris un coin de la lettre. Pas entièrement, non, mais juste de quoi apercevoir le sigle « My Heritage » et un nom en rouge, « John Bullitt ». Le mercredi, je soulevai l'autre coin et entrevis le terme « Pirate sanguinaire », écrit à la main. Oh ! J'en fermai immédiatement la lettre et ne la touchai plus. Un pirate sanguinaire, malheureux, abandonnant cette pirate me déshonorant du sang plein les mains, le rouge sur mon visage rien qu'à l'évocation de son simple nom. Mon Dieu, sûrement le genre de tueur implacable se montrant sans pitié, sanguinaire. Oh, malheur de malheur. Je suis donc l'arrière petit-fils d'un criminel, d'un boucher, d'un pirate. Mais pourquoi suis-je allé faire ce test à la noix? J'aurais pu être le descendant d'un homme qui aurait fait fortune, répandu le bien sur la terre d'Amérique, ou bien tiens, un shérif, un véritable as du pistolet à l'époque du Far West, ou alors quelqu'un d'adulé, une icône respectée, et puis tiens, un riche de surcroît, mais non, j'avais tiré le gros lot avec cet ancêtre pirate. Ah, je les retiens, les My Heritage. Que faire? Que faire alors? Je restais 2 jours sans toucher la lettre, ne sachant comment faire. Devais-je la détruire, la lire plus attentivement pour évaluer l'ampleur des dégâts et assumer la honte familiale? Ne sachant que faire, je la déposais sur ma table de nuit en me disant que je la cacherais dès le retour de Véronique. Mais le vendredi midi, ma femme revint plus tôt que prévu et m'accueillit le soir même au sortir du travail avec un bon repas qu'elle avait soigneusement concocté. Un verre de Bordeaux à la main et un autre qu'elle m'offrit tout en m'enlaçant tendrement. Celle-ci me glissa alors à l'oreille.
« Chérie, je suis enceinte. Tu vas être papa. »
« Quoi ?» De surprise, je laissais tomber mon verre de rouge qui m'éclaboussa tout le parquet. Excusez-moi, pardon.
Ce n'est pas grave, mon chéri. Je comprends bien ta surprise, mon amour. Cela faisait si longtemps qu'on en rêvait de cet enfant. Ne t'inquiète pas pour le Bordeaux, je vais éponger le sol. C'est drôle d'ailleurs, tout ce rouge sur le plancher. On dirait presque qu'il y a eu un crime ici, ou un meurtre. Enfin, quelque chose de sanguinaire. Tiens, ça me fait penser à ta lettre de MyHeritage que tu avais laissée près de notre lit pour que je la lise et qui parle justement d'un pirate sanguinaire, de John Bullitt. C'est vraiment marrant. D'après eux, et c'est rajouté à la main, ce serait donc un homonyme de ton arrière-arrière-arrière-grand-père dont tu me parles tout le temps et qui n'a rien à voir avec ton véritable ancêtre, qui lui, et c'est bien indiqué en rouge, a été maire de San Francisco. Oh, je ne sais plus quelle année. Dis donc, tu as un sacré pédigré, toi. Oh, mon chéri, tu sais, j'ai une idée. Et si on appelait notre petit pirate? Ce serait drôle, non?
C'était la musique d'Artatum, Someone to Watch Over Me, qui accompagnait cette nouvelle. Mais passons maintenant au texte d'une autrice, Valérie Villemin, qui, de sa Bretagne d'adoption, nous a envoyé sa nouvelle Alice. Alors, petite précision, Alice et le mythe, qu'on a lu tout à l'heure, sont deux nouvelles autour du thème de l'inattendu, le titre du dernier recueil des Refusés.
Dans la cuisine, où elle était allée réchauffer les quiches, elle les entendait qui chantaient « Ma préférence », un titre de Julien Clerc, sorti en 1978, l'année de naissance de sa fille Clémence, tiré d'un album qu'elle avait précieusement conservé et qu'il connaissait par cœur tant il l'avait entendu. Son gendre se mit à entonner «
Ma grande Clémence à moi
sous les rires et les applaudissements. Dehors, on venait de claquer une portière. Elle s'approcha de la fenêtre, mais les lilas en fleurs lui cachaient la vue. Elle pensa à Georges, son défunt mari, qui serait allé immédiatement les tailler. Il est né avec un sécateur à la main, disait-elle de lui lorsqu'on l'a questionné autrefois sur leur jardin aux lignes si rectilignes. Dire qu'elle avait toujours préféré les jardins anglais à la végétation foisonnante, désormais, elle ferait comme bon lui semblerait. Cela faisait une semaine qu'elle avait emménagé dans cette petite maison de ville.
Eh, ma petite dame, on sait très bien, très vite, quand on a trouvé la bonne.
Lui avait dit l'agent immobilier avant qu'elle signe le compromis. Cela n'avait pas été facile pour elle de quitter la demeure achetée il y a presque 50 ans. Pourtant, depuis la mort de Georges, elle avait été totalement dépassée par le travail que représentait l'entretien d'une si grande maison.
« Prends quelqu'un pour t'aider !»
lui avait dit sa fille, mais elle n'en avait pas eu envie. et avait préféré vendre. C'était la première fois qu'elle prenait seule une décision aussi importante. Si elle était attristée par la perte de son mari, elle se sentait aussi libérée. Elle l'avait sincèrement aimé. Mais à sa retraite, les obsessions et les petites manies de Georges avaient pris le dessus, rendant difficile la vie à deux. En jetant tous les petits bouts de savon de Marseille qu'il avait gardés de façon maladive dans son atelier, elle s'était dit que les sentiments, c'était comme les savonnettes. Ça s'usait avec le temps. Et plus vous tentiez de les retenir, plus ils vous glissaient entre les doigts. Désormais, elle n'achetait plus que du savon liquide.
« Tout va bien, maman ?»
avait hélé sa fille, juste avant qu'on sonne et tambourine à la porte.
« C'est le facteur !»
avait crié Nicolas, son petit-fils, en entrant. « Quel pitre !» Petit déjà, Nicolas aimait écouter et raconter des blagues, mais il ne les comprenait pas toujours. Il l'avait ainsi mise dans l'embarras lorsque, à 5 ans, il avait raconté avec le plus grand sérieux à une de ses connaissances qui n'avait aucun humour que Clémence, sa mère, avec ses cheveux frisés, alors que dans la famille on les avait raides, était sûrement la fille du facteur, justement. Nicolas l'avait rejointe dans la cuisine.
« Elle te va bien, hein, cette robe, mamie. Mamie bleue, bleue comme tes yeux. »«
Merci, mon grand. »«
Alors, t'es pas trop fatigué ?»«
Pouf, tu verras quand t'auras mon âge. » Nicolas, toujours serviable, avait aidé à faire ses cartons et il en avait fallu du courage pour s'attaquer à ce capharnaüm. Georges avait collectionné tellement d'objets décoratifs et bibelots en tout genre, d'intérieur et d'extérieur, qu'il avait fallu faire un tri drastique. Elle avait jeté et donné à Emmaüs toutes les vieilleries qu'elle voulait plus voir. Seule la commode en marqueterie, encore en bon état, qui pouvait intéresser sa fille, avait été mise au garde-meubles. Clémence était comme son père, tellement attachée aux biens matériels qu'elle avait préféré ne pas l'avoir dans les pattes. Et elle avait eu bien raison.
« Mais, maman, où est passée la coiffeuse de Tati ?»«
Oh, bon, je l'ai jetée, hein. Le bois était vermoulu. Mais j'ai gardé la commode. »«
Mais quoi, tu aurais pu me demander avant. Je comptais bien la récupérer un jour. »«
Je t'en achèterai une neuve. Il y en a de très jolies chez Conforama. »
avait ajouté son mari, alors que Clémence avait pris un air pincé. « Nicolas ?» venait maintenant de sortir les bouteilles du réfrigérateur. Et elle le suivait avec le plateau.
« Attention, maman !»
Un paquet, très volumineux, avait été déposé dans le hall, sûrement par Nicolas. Et elle avait failli se prendre les pieds dedans. Elle leur avait pourtant bien dit que pour sa pendaison de crémaillère, ce n'était pas la peine d'amener des cadeaux. Mais il ne l'avait pas écouté. Nicolas avait ensuite débouché le champagne et rempli les coupes.
Allez, on trinque à la nouvelle maison de mamie.
Les cadeaux, les cadeaux.
Les cadeaux.
Avait insisté Anne, la jeune sœur de Nicolas, en lui tendant l'un d'entre eux. Le contenu du premier l'avait surprise. Un aspirateur robot. On ne savait plus quoi inventer.
Vous verrez, il fera le travail pour vous. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Avait dit son gendre. Anne lui avait peint une jolie aquarelle de bord de mer. Françoise, une vieille amie, lui avait apporté un ficus. Et les nouveaux voisins, un couple sans enfants, de la liqueur de noix.
« Alors tu ouvres pas mon cadeau ?»
L'objet, entouré de papier bulle, en plus d'être encombrant, semblait lourd. Elle avait tâté à travers le paquet et s'était raidie avant de l'ouvrir. cette silhouette. Oh non ! Alice ! La statue qui trônait autrefois dans son jardin ! Celle-là même dont elle avait préféré dire qu'on la lui avait volée.
Eh ben, décidément,
avait dit Clémence. Et qu'elle avait honteusement stockée dans son garage avant de l'emmener chez Emmaüs.
Oh, mamie, quand je l'ai vue, j'en croyais pas mes yeux. C'est la même que la tienne.
Elle fit semblant d'être touchée par cette attention.
Je savais bien que ce cadeau, il te ferait plaisir.
Ah ça, pour une surprise. Elle n'avait jamais osé raconter à quel point elle avait en horreur les statues. Depuis que, toute petite, elle avait vu la Vierge immense et terrifiante qui trônait sur le perron de la maison de retraite où vivait sa tante. Rien que d'y penser, elle en avait encore les frissons. Avant sa maladie, Georges avait eu une dernière marotte. Il collectionnait les nains de jardin. Elle avait immédiatement désapprouvé tellement elle trouvait cela ridicule. Une violente dispute avait d'ailleurs éclaté entre eux à ce sujet. Et lorsqu'un individu les leur avait ensuite volés, elle l'avait béni. Mais Georges n'avait pas tardé à ramener d'autres trophées. Pour elle, soi-disant. Puisqu'elle aimait tant Alice au pays des merveilles, qu'elle lisait souvent à ses petits-enfants. Il avait été fier de chiner dans une brocante les statues d'Alice et de ses comparses, le chat, le lapin, la chenille et le chapelier fou. Elle l'avait laissé faire, sans rien dire cette fois. Et elle le regrettait amèrement. Aujourd'hui, en voyant ainsi briller les yeux de Nicolas, elle comprenait qu'il allait falloir trouver à nouveau une place à cette fichue Alice, au sourire qu'elle trouvait glaçant et énigmatique. Une place quelque part au fond du jardin. Elle espérait juste que les autres personnages qu'elle était allée mettre ceux-là à la déchetterie avaient désormais été détruits.
Quelles sont les nouvelles ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Nous avions choisi sur ce texte la musique de Marianne Perrault, One Cool Set for You, pour rythmer le texte de Valérie. Et pour terminer cette émission, nous vous proposons la lecture de trois micro-nouvelles de 100 mots extraite du recueil « Meurtre sans façon ». La brume, de Jean-Louis Desguéret, puis « Pour quelques glaviots de trop » de Gérard Viry, et enfin « Rite initiatique » de Christine Villemain.
La brume. Ah, la brume, c'est bien. La brume matinale de novembre, c'est encore mieux. Parfait pour le sanglier. Le Baptiste, il se tient au bord du petit bois. De l'autre côté du champ, son copain, le Raymond. Ils attendent la harde qui, poussée par les chiens, va débouler dans le pré. Deux femelles et leur petit fronce sans se poser de questions. Bam ! Le Baptiste casse son fusil, retire les cartouches et observe le Raymond le cul dans la haie, la poitrine défoncée par les chevrotines. Quand on est cocu, on n'y voit pas bien clair, hein ? Et la brume, ça aide pas.
Pour quelques glaviots de trop. Blondin glavioté entre les tombes, son argument à six coups vissé sur mon bide. Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Pourriture. Creuse ! J'ai creusé jusqu'au miracle. Des sacs de dollars ressuscités d'entre les morts se mirent soudain à éblouir ma gamberge. Alors, d'un sérieux coup de bêche, bien placé entre ses joyaux de famille, je lui ai refilé une ultime raison de glairer sa vie. Après, j'ai pris le fric, ramassé le flingue et me suis tiré. Sans rancune.
Rite initiatique de Christine Villemain. Essoufflé par cette lutte acharnée, Flèche d'Aigle regarda le cow-boy agoniser sans la moindre pitié. Il savoura pleinement sa victoire et se réjouit du triomphe qu'il attendait lorsqu'il arborerait fièrement son premier scalp. Il se laissa aller à une brève mais frénétique danse de la joie, les pieds nus ancrés sur la terre nourricière. Il était un homme. Désormais, il serait reconnu comme tel et respecté. Fini l'enfance. Il était temps de suivre le chemin de ses ancêtres. Indifférent aux supplications de l'ennemi, il se saisit de sa tête et arracha d'un coup sec la perruque du Playmobil.
Après la lecture de ces trois micro-nouvelles de 100 mots, extraites du recueil « Meurtre sans façon », eh bien, toute notre équipe vous dit...
Au revoir !
Au revoir à tous.